L'heure du journal avec Mariam El Kurdi. Bonjour Mariam.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la mort de Toni Morrison, première romancière afro-américaine, prix Nobel de littérature. Elle était aussi une femme politique, nous dira Jacqueline Petrose. Les autres titres, Mariam.
Des arrestations arbitraires d'élus locaux au Cachemire. Le Parlement indien vient d'adopter la loi qui met fin à l'autonomie de la région. Situation très tendue sur place, nous le verrons avec notre correspondant. Quand canicule précoce rime avec vendange en avance, et ce n'est pas sans conséquence, c'est toute la profession qui doit s'adapter. Elle pique fort et par surprise, attention aux vifs petits poissons venimeux qu'on risque de croiser sur les plages des Côtes d'Armor. Et la douleur de la piqûre est vive, c'est le cas de le dire.
Les invités du 6-9 à 8h moins le quart, comprendre la situation au Cachemire, l'Inde lui retire son autonomie. Conséquence de cette décision, réponse avec Charlotte Thomas qui est spécialiste de l'Inde et chercheur à Sciences Po Paris. 8h20, la mort est tout sauf l'oubli, c'est ce que disait Toni Morrison, elle nous a quittés lundi soir. Retour sur son œuvre, ses livres avec des invités, Christine Laferrière qui est traductrice de ses romans, Dominique Bourgois, éditrice des livres de Toni Morrison, François Bunel qui l'a interviewé en 2018 à New York et puis Christiane Taubira sera au téléphone avec nous en Guyane pour parler de ses livres qui ont marqué ces dernières années. Vos questions sur l'œuvre de Toni Morrison dès maintenant 01 45 24 7000.
France Inter. Et justement, Pierre, elle était un trésor national. C'est avec ces mots que Barack Obama a rendu hommage à Toni Morrison. La romancière afro-américaine est morte à 88 ans. Son écriture représentait un superbe et profond défi à notre conscience et à notre imagination morale, selon l'ancien président des États-Unis. En 2012, il lui avait remis la prestigieuse médaille de la liberté lors d'une cérémonie à la Maison Blanche. Mais Toni Morrison est surtout la seule noire américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature. C'était en 1993. Elle avait obtenu auparavant le prix Pulitzer en 88 pour son roman Beloved, autre roman connu, Jazz, Paradise. Descendante d'esclaves, elle a donné une visibilité littéraire aux Noirs, une grande romancière, mais aussi une militante anti-racisme à travers son œuvre essentiellement, mais pas que, Jacqueline Petrose.
Elle n'a jamais cessé de mener des combats contre le racisme, contre la mémoire abîmée, disait-elle, de l'Amérique sur l'esclavage, mais aussi contre le communautarisme noir. Dans sa vie, dans ses cours aux étudiants de l'université de Princeton, longtemps interdite aux Noirs, par ses textes et par ses mots, Toni Morrison aura en fait été une femme politique. Dominique Bourgois, son éditrice en France.
Tout est dans ses livres. C'est là où elle était militante. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tout est dans ses livres. Il faut les lire. Elle n'avait pas besoin de signer des pétitions. Elle n'avait pas besoin d'aller faire des marches. Tout est dans ses livres. C'est sa grande force. Mais dans sa prestance, dans sa manière d'être, dans son attitude, dans son physique, dans sa coiffure, dans sa gourmandise, dans son humour, c'est là où elle était la plus forte. Il y a des universités du Sud qui n'autorisaient pas les livres de Toni Morrison.
Très populaire, aimée de ses étudiants et toujours suivie par ses lecteurs, Toni Morrison, d'abord réticente, s'était réjouie de l'élection d'un président noir. Barack Obama lui remettra en 2012 la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile américaine. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, Toni Morrison dénonçait ses propos racistes qui révoltaient cette petite fille d'ancienne esclave.
Jacqueline Petrose pour France Inter. Aux États-Unis, Donald Trump s'apprête à se rendre sur les lieux des deux tueries qui ont éclaté le week-end dernier dans le pays. À Dayton, dans l'Ohio, et à El Paso, au Texas, à la frontière mexicaine. À El Paso, où 22 personnes sont mortes, dont 8 Mexicains. Le tueur a ouvertement revendiqué un crime raciste anti-hispanique. Donald Trump n'est donc pas forcément le bienvenu dans cette ville, la majorité mexicaine. Sur place, beaucoup n'ont pas oublié les discours de campagne présidentielle sur les Mexicains qualifiés de violeurs ou de criminels par l'ex-candidat Trump. En Malaisie, les recherches s'intensifient pour retrouver Nora, une adolescente de 15 ans. Cette jeune franco-irlandaise a disparu dimanche de l'hôtel où elle était en vacances avec sa famille dans une zone de forêt tropicale. Ses parents redoutent un enlèvement. Le Cachemire indien, sous haute tension, le Parlement indien a adopté hier soir la loi qui met fin à l'autonomie du Cachemire. Le territoire passe sous la tutelle administrative directe de New Delhi. Cette réforme majeure a été adoptée en 2 jours seulement et sans consulter les Cachemiris. Au moins 6 personnes ont été blessées hier dans des manifestations. Une partie du territoire est coupée du monde. Les autorités ont suspendu le téléphone et Internet. Les principaux dirigeants politiques locaux ont aussi été arrêtés. L'un d'entre eux a réussi à parler aux médias et exprimer sa colère. Correspondance à New Delhi, Sébastien Farcy.
Il est l'un des piliers de la politique du Cachemire. Farouk Abdullah, 80 ans, a été plusieurs fois chef du gouvernement régional puis ministre fédéral. Il est donc l'un des modérés qui accepte la souveraineté de l'Inde sur le Cachemire. Malgré cela, New Delhi l'a placé en détention dès lundi matin, certainement pour l'empêcher de s'exprimer sur cette réforme controversée. Hier midi, il a réussi à briser une porte pour sortir sur le balcon et parler aux médias, furieux et ému.
It is totally undemocratic.
Ceci est totalement antidémocratique. Nous ne sommes pas des jeteurs de pierres ou des lanceurs de grenades. Nous croyons en la résolution pacifique des choses, mais eux veulent nous assassiner. Alors allez-y, voici ma poitrine, tirée ici, mais pas dans mon dos, car je me suis battu pour cette nation.
Toutes les grandes figures de la politique du Cachemire ont subi le même sort, un signe que les nationalistes hindous au pouvoir veulent faire plier toute dissidence et que ce gouvernement est prêt à tout pour forcer les Cachemiriens à accepter la souveraineté de l'Inde sur cette région rebelle. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
7h06, Mariam, faut-il s'inquiéter de la pollution au plomb dans le secteur de Notre-Dame à Paris?
Oui, le 15 avril, lors de l'incendie, les 400 tonnes de plomb contenues dans la charpente de la flèche et la toiture ont fondu et se sont répandues dans l'atmosphère sous forme de particules. L'Agence régionale de santé a publié les nouveaux résultats des analyses faites sur une centaine d'enfants habitants ou scolarisés aux alentours. Un deuxième enfant présente un taux de plomb dans son sang au-dessus du seuil de vigilance. Tous les enfants sont surveillés de près, assure l'Agence régionale de santé. En Ardèche, 90 hectares de forêt ont été brûlés à La Blachère, un camping évacué. Plus de 300 pompiers sont toujours sur place. Le feu est fixé, maîtrisé, mais pas éteint. La consternation à Signes, dans le Var. Le maire Jean-Mathieu Michel est mort, percuté par une camionnette alors qu'il tentait d'empêcher ses occupants de déverser illégalement des gravats sur le sol. Selon les enquêteurs, il s'agit d'un accident et non pas d'un homicide. Il n'empêche l'émotion est vive parmi les 2700 habitants de Signes, mais pas que. Cela touche beaucoup d'élus de petites communes qui s'interrogent aujourd'hui sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, sur les risques qu'ils peuvent encourir. Les dépôts sauvages de déchets, c'est un problème récurrent selon Georges Ferrero, le maire de Bossé, une commune voisine de Signes.
On ne supporte plus le manque de civisme sur les communes, que ce soit les entreprises de maçonnerie comme les espaces verts, les déchets, au lieu d'aller les vider aux déchetteries, ils nous les vident sur les terrains, en pleine forêt, sur bois, sur les routes. Et je faisais comme lui la chasse, et maintenant je me pose des questions, est-ce que je dois continuer en fonction de la responsabilité que ça engage? Parce que se faire rouler dessus pour justement porter du civisme et expliquer aux gens qu'il ne faut pas le faire, je trouve ça inadmissible. Et je suis choqué et très touché parce que Jeannot était un ami intime et on avait une conviction du respect de la protection de la nature.
Les livreurs à domicile de Deliveroo appellent à une nouvelle grève ce soir. Ils protestent contre la baisse de leur rémunération après les nouveaux trafics pratiqués par la plateforme britannique.
On les appelle les Américains accidentels, Mariam. Qui sont-ils?
Ils sont français, nés sur le sol américain, mais ils résident aujourd'hui en France. Certains n'ont jamais remis les pieds aux États-Unis depuis leur enfance, mais malgré cela, le fisc outre-Atlantique leur demande aujourd'hui des comptes. Quand être binational peut faire mal au portefeuille, explication Maxime Deps.
Né aux États-Unis de parents français, Michel n'a vécu que 2 ans outre-Atlantique après sa naissance.
Mes parents étaient très fiers d'avoir la double nationalité, que moi je sois aux États-Unis, tout allait bien jusqu'à ces courriers des banques qui nous demandent de nous déclarer au fisc américain.
Car aux États-Unis, toute personne ayant la nationalité américaine est considérée comme contribuable américain et l'étau se resserre avec la loi FATCA mise en place outre-Atlantique il y a quelques années pour mieux lutter contre l'évasion fiscale. Elle se double d'un accord signé avec la France en 2013 qui oblige théoriquement le transfert de données vers les États-Unis avec son lot de complications pour Fabien Lehagre qui défend l'intérêt de ces binationaux. Nationaux un peu désemparés.
Il faut que les banques récupèrent des informations que les Américains accidentels ne sont pas en mesure de fournir. Les banques doivent récupérer un numéro d'identification fiscale que la plupart des Américains accidentels n'ont pas.
Faute de pouvoir fournir ces données à l'administration américaine, les banques françaises craignent de se retrouver dans l'illégalité vis-à-vis des États-Unis et menacent de clore près de 40 000 comptes, là encore aberrant.
Quand on est privé de services bancaires, de placements dans des assurances vie, on se pose question, on se dit pourquoi cette nationalité américaine dont on n'a jamais profité nous pose autant de problèmes.
L'une des solutions serait pour ces Français de renoncer à leur binationalité, mais pour ça encore faut-il passer à la caisse. Les frais administratifs d'un tel acte aux États-Unis s'élèvent au minimum à plus de 2 300 $.
Maxime Depp, ce dossier à retrouver sur notre site internet franceinter.fr. On les attend en général à l'automne, les traditionnelles vendanges, mais les premières ont déjà démarré à Cabestany, dans les Pyrénées-Orientales. Une récolte précoce et ce n'est pas le fruit du hasard. La cause, c'est la canicule. Dans son domaine, Éliane Lafarge prend conscience d'un vrai changement.
C'est un métier qui est en train d'évoluer complètement, effectivement. Alors ça demande beaucoup d'anticipation, ça demande de l'organisation. Se dire, ben on va vendanger de plus en plus tôt, donc faut faire venir les équipes plus tôt. Vous parliez des vacances, faut les prendre avant. Et repenser toujours la viticulture pour se dire, mais comment on voit en fait qu'il fait quand même de plus en plus chaud, qu'il y a ces canicules, que les météorologues nous annoncent de plus en plus de canicules. Donc va falloir pallier aussi ça en termes de viticulture, d'adapter. Peut-être adapter les cépages après, adapter les modes de conduite, les plantations des vignes pour, je vous disais, éviter le soleil de l'après-midi qui est plus chaud sur les raisins, protéger les raisins avec les feuilles, faire moins de hauteur de feuillage, du coup la vigne va moins prendre dans les réserves, moins transpirer, et c'est penser tout ça pour le futur.
Et comme pour les éleveurs et les agriculteurs, les vagues de chaleur ont des effets chez les viticulteurs. Au domaine de Cabestany, les responsables estiment la perte de production liée à la canicule de 20 à 30%. 10 départements du centre-est en vigilance orange aux orages violents, notamment l'Ain, l'Aveyron, la Lozère, le Rhône, la Loire ou encore la Haute-Loire. L'alerte est levée pour le Lot. Conséquence, la circulation des TER est très perturbée entre Montbrison et le Puy-en-Velay.
Les pieds dans l'eau sous le soleil, l'image de vacances bien sûr fait rêver Mariam.
Oui, mais attention où vous mettez les pieds, c'est le cas de le dire, dans les Côtes d'Armor. Depuis le début de l'été, les vives, petits poissons venimeux n'épargnent pas les baigneurs. Elles se cachent dans le sable et avec leurs petites épines piquent celui ou celle qui a eu la malchance de lui marcher dessus. Et ça fait mal, Joanne Moison.
Aïe, cette touriste originaire de Bourges est assise devant le poste de secours de la plage de Trestraou à Perros-Guirec.
Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez le pied dans une bassine d'eau chaude?
Je me suis fait piquer par une vive. Sur le moment, je pensais avoir marché sur un caillou ou un coquillage pointu. Et après, pour marcher, c'était compliqué. La douleur est très, très vive. Vive les vacances.
Les sauveteurs recensent une trentaine de piqûres de vives par jour ici à Perros depuis le début de l'été. Des piqûres signalées aussi plus à l'est, sur la plage des Rosaires à Plérin. On remarque d'ailleurs quelques baigneurs avec des chaussons, comme Marie-Hélène de Saint-Brieuc.
Moi, je mets des chaussons, surtout parce que j'ai été piquée par une vive l'année dernière. Ça me protège.
On va aller voir le monsieur avec le caleçon jaune fluo. Il a des chaussons,
lui aussi. C'est Bjorn, il est hollandais. Bjorn a lu sur internet qu'il pouvait y avoir des vives ici. C'est pour ça qu'il a acheté des chaussons pour lui et toute sa famille. Si vous vous faites piquer par une vive, essayez d'appliquer le plus vite possible une source de chaleur, comme de l'eau très chaude par exemple, ou alors vous approchez une cigarette. N'oubliez pas de nettoyer et désinfecter la plaie également. Ensuite, pour vous venger, vous pouvez manger une bonne bouillabaisse. Dedans, il y a des vives, mortes et sans épines.
Oui, il paraît que la vengeance est un plat qui se mange froid. Merci, Joanne Moison.
C'était le journal de Mariam El-Kurdi.